Bonsoir, c'est le temps du débat, d'un débat quotidien entre 18h20 et 19h qui prend la suite du grain à moudre d'Hervé Gardette que nous saluons pour le travail accompli avec ses équipes depuis des années et que vous retrouvez chaque matin désormais dans les matins de Guillaume Herner. Le temps du débat, débattre c'est choisir, choisir son thème, choisir ses invités. Nous allons tenter chaque soir d'inviter des chercheurs de terrain à dialoguer avec des acteurs de terrain car nous ne croyons pas que la séparation tant de fois énoncée du monde des idées et du monde de l'action, qu'elle soit action politique ou action sociale. Nous allons réfléchir au surgissement de l'événement, à la surprise d'une actualité qui nous prend si souvent à contre-pied quand c'est pourtant le fait de devoir la suivre et nous voulons suivre l'actualité, mais qu'il ne faut donc pas renoncer pour autant à interpréter cette actualité. À l'ordre du jour, donc ce soir, la non-violence, une non-violence revendiquée aussi bien à Hendaye et à Irun lors du G7 qu'à Hong Kong depuis 3 mois maintenant. Quelles sont les sources, sûrement différentes, d'un phénomène trop souvent plaqué sur les seules années 1960 et 1970? Sont-elles les mêmes en Europe et en Asie? S'accompagnent-elles ou cèdent-elles des violences accomplies parallèlement à leurs manifestations par des militants, eux, violents? C'est ce que nous verrons ce soir avec nos trois invités. Emmanuel Cervera-Marzal, il est sociologue et philosophe à l'université d'Aix-Marseille. Il est spécialiste de la violence politique et de la désobéissance civile, auteur notamment de Gandhi, politique de la non-violence chez Michalon, et des nouveaux désobéissants au bord de l'eau. Tchatch Etcheverry, il sera en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Pays Basque à Bayonne. Il est militant du mouvement non-violent Bici, qui travaille sur les questions d'urgence climatique et de justice sociale. Il est cofondateur d'Alternativa et d'Action non-violente COP21, et il a été un des organisateurs du contre-sommet de ce week-end au Pays Basque. Éric Sotodé, enfin, il sera au téléphone avec nous depuis Hong Kong. Il est analyste politique basé dans la région depuis 25 ans, anciennement chercheur au Centre d'études français sur la Chine contemporaine. Il fut enseignant également à l'université Saint-Joseph de Macao et il travaille aujourd'hui pour une grande ONG de défense des travailleurs basée à Hong Kong. Hong Kong, où nous nous rendons avec une archive du 18 août dernier.
Beaucoup de manifestants sont pacifiques. Il y en a effectivement qui ont recours à des moyens plus radicaux pour s'exprimer. Mais nous avons essayé de nombreuses fois des méthodes pacifiques.
Je suis ici devant le siège du Parlement hongkongais et il y a plusieurs milliers de manifestants qui sont toujours là dans la rue. Ils occupent la rue, la circulation est fermée. Pour le moment, la situation est tout à fait calme. Ils s'amusent avec des lasers. Vous apercevez peut-être derrière moi des points lumineux, verts, bleus, rouges, qui sont projetés donc sur le siège du gouvernement hongkongais. L'ambiance est plutôt bon enfant. On a vu tout à l'heure des manifestants danser sur la route sous les applaudissements des manifestants. Donc pour le moment, tout est calme et c'était d'ailleurs le mot d'ordre des organisateurs de la manifestation aujourd'hui, prouver aux autorités hongkongaises mais aussi à l'opinion publique que malgré les débordements de la semaine dernière, le mouvement reste dans sa grande majorité pacifique. Mais désormais, là ce soir, la question est de savoir jusqu'à quand les autorités vont tolérer la présence de ces manifestants dans la rue.
C'était le 18 août dernier, un reportage de France 24 d'Antoine Védeillé. On a entendu dans le journal à l'instant même Valérie Crova qui nous parlait justement de ces hésitations de tous ceux et de toutes celles qui manifestent depuis maintenant des mois à Hong Kong. Vous êtes avec nous, Éric Sotodé, au téléphone et vous avez suivi par exemple les dernières manifestations à Hong Kong où vous vivez. Ces hésitations, vous les ressentez depuis que vous suivez ces manifestations entre tendance violente et tendance non violente?
Ah oui, bien sûr, on les sent, enfin, c'est notre quotidien et ça, déjà que ce soit la radio ou la presse, les journaux, etc. Et puis même avec les collègues, d'ailleurs, tous les jours, c'est un sujet de conversation. Et puis je me suis rendu à plusieurs reprises sur des sites, enfin, sur plusieurs sites de manifestations. Donc bien évidemment, c'est quelque chose qu'on sent très fortement. D'autant que là, vous dites que ça, enfin, comme tout le monde le dit d'ailleurs, qu'on est dans le troisième mois de manifestation, mais en fait, Cette mobilisation contre la loi d'extradition, enfin le projet de loi d'extradition, en fait, il dure depuis la fin mars, puisqu'on avait déjà eu des premières manifestations très pacifiques, environ 10 000 personnes, 12 000 personnes qui s'étaient rassemblées le 31 mars. Et puis fin avril, on avait quelque chose de plus important à 130 000. Et tout ça, c'était très pacifique. Et tout début juin, on était arrivé quand même à d'abord, le 9 juin, 1 million de personnes dans la rue, et le 16 juin, 2 millions de personnes dans la rue. Et aucune de ces manifestations n'a été suivie ou n'a provoqué, disons, d'incidents où c'est pas du tout la radicalisation et d'une certaine façon des événements plus violents ne sont apparus que on va dire à partir vraiment de la mi-juillet et peut-être un petit peu au moment du 1er juillet, ce qui a beaucoup choqué les esprits, c'est lors de la grande manifestation traditionnelle du 1er juillet, donc le jour de la rétrocession, qui a rassemblé pareil un million de personnes. Il y a eu quelques manifestants qui se sont emparés du Let's Go, donc l'assemblée locale, et en défonçant, en cassant les vitres et en pénétrant à l'intérieur et en dégradant une partie de l'assemblée.
Oui, et quelles sont les sources de cette non-violence telle que vous la vivez quotidiennement à Hong Kong depuis ces dernières semaines? Sont-elles différentes des sources que l'on va peut-être évoquer avec nos autres invités de ce matin dans un instant, donc qui sont plutôt des sources européennes, voire indiennes? Y a-t-il dans la pensée chinoise justement une réflexion autour de cette possibilité de ceux qui sont donc dans la société de se révolter contre un pouvoir injuste, mais de manière une révolte pacifique?
Alors, pas vraiment en fait. Enfin, j'ai regardé et puis en préparant l'émission, j'ai quand même regardé un petit peu les sources et puis les différentes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent bien sûr sur l'internet. Il y a des forums spécialisés. Comme vous le savez, les manifestations sont beaucoup organisées en fait et la stratégie, s'il y en a, sinon on peut parler vraiment de stratégie, mais tout du moins les happenings successifs et la fluidité du mouvement en fait se décide quasiment au jour le jour sur des forums de discussion en ligne. Et en fait, les inspirations sont plutôt aussi d'ordre occidental ou indienne. Il y a des références à Martin Luther King, il y a des références à Gandhi. Ça remonte bien évidemment aussi au mouvement des parapluies de 2014 où on appelait à la désobéissance civile. Et la référence, le texte, un des textes fondateurs écrit par Benny Tai, qui aujourd'hui vient d'être libéré, mais qui était condamné à 16 mois de prison pour avoir organisé Occupy Central, était justement la référence à Martin Luther King. Après, il y a des références aussi à Vaclav Havel, au pouvoir des sans-pouvoirs. Donc, il y a vraiment, c'est plutôt un bricolage et une adaptation de ces registres, effectivement, qui existent dans un héritage occidental ou indien, sachant qu'il y a des différences très marquées et qu'il y a une conscience aussi de ces différences.
Merci Eric Rousselet, vous restez avec nous au téléphone pendant que je tente de joindre tout de suite Tchatche Cheveri. Vous êtes en duplex depuis les studios de France Bleu Pays Basque à Bayonne, qui vous accueillent, qui ont beaucoup travaillé, j'imagine, autour de ce G7 depuis maintenant plus de 3 jours. Tchatche Cheveri, vous-même, vous devez être un peu épuisé. Vous êtes un des co-organisateurs du contre-sommet de ce week-end dans le Pays Basque autour de ces manifestations. Et vous êtes le cofondateur d'Alternativa, une association, une organisation qui se veut non-violente, ainsi qu'Action non-violente COP21, mais aussi d'un autre mouvement non-violent qui s'appelle BC. Tout cela, vous l'avez fondé avec d'autres dans ce Pays Basque et vous avez voulu véritablement mettre en avant cette action non-violente pendant toute la durée de ce G7.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Et du coup,
et du coup justement, mais d'où vient justement cette inspiration, ce que vous avez voulu développer avec ces associations, mais également avec une occasion comme celle-ci, à savoir protester contre la tenue d'une telle organisation, d'un tel G7 dans votre région, mais par des moyens non violents?
Oui, bon, en fait, Nous, c'est effectivement un parcours collectif, c'est un choix d'efficacité, d'avoir choisi la stratégie non violente plutôt que les stratégies violentes ou armées, avec l'expérience de ce qui s'est passé au Pays Basque ces dernières décennies. En fait, au fur et à mesure des décennies, on s'est aperçu que les stratégies violentes ou armées avaient plutôt tendance à renforcer les États espagnols et français que le mouvement basque qui les utilisait pour son combat. Et du coup, on a découvert petit à petit qu'il y avait d'autres stratégies radicales qui nous ont semblé, surtout quand on les a pratiquées, plus efficaces, plus des stratégies gagnantes. Et depuis, on s'inscrit dans ça. Quand on a créé BC, c'était déjà dans ce terreau et ce parcours-là. Et donc, dans notre stratégie par rapport à l'urgence climatique et la justice sociale, on a décidé de s'inscrire à fond dans ces stratégies-là. Et c'est à partir de là, de ce logiciel, qu'on a impulsé d'autres dynamiques qui se sont développées partout dans l'Hexagone, donc Alternativa, puis Action non violente COP21. Au niveau de ce G7, de toute façon, même si j'avais été pour des stratégies violentes, je les aurais pas exercées dans ce G7 parce que, en fait, le principe même, d'après moi, de la stratégie, c'est de pas se battre sur le terrain au moment et dans le dispositif qu'a déterminé l'adversaire. Et là, justement, je pense que le fait d'avoir développé un certain nombre d'actions non violentes pour d'abord développer le fait qu'il y a des alternatives au monde que nous propose le G7, à cette globalisation capitaliste qui scie la branche même sur laquelle l'humanité est assise, et également donc des manifestations et des formes d'action comme ce qu'on a fait avec la marche des portraits Macron, je pense que c'était plus adapté à la situation, à une situation où une population a été carrément prise en otage. Ici, la Côte Basque a été prise en otage, occupée policièrement. Il faut s'imaginer 13 200 policiers
mais
et gendarmes.
Mais ça, c'est le cas généralement lors de ces grands rendez-vous de G7, parce qu'effectivement, certains des dirigeants exigent aussi cette sécurité pour leur personne et pour leur entourage.
Oui, moi j'avais une solution plus simple pour qu'ils se réunissent 3 jours en toute sécurité, c'est qu'ils aillent le faire dans une caserne. Moi je trouve scandaleux que des dirigeants publics payés avec de l'argent public veuillent se réunir avec vue sur la mer et pour ça bloquent une région d'une centaine de milliers de personnes en empêchant les personnels de soins d'accéder à leurs malades, en empêchant les plateaux repas d'arriver aux personnes âgées dépendantes, en fermant les gares de Biarritz, Bayonne et tous les environs, en interdisant les plages, les marchés paysans, etc. Et du coup, je pense qu'effectivement, créer quelques incidents violents qui étaient des piqûres de mouches par rapport à cet énorme dispositif policier, c'était en fait servir la soupe au système, c'est-à-dire lui offrir les images qui allaient tourner en boucle dans BFM, etc., et qui allaient justifier cette occupation policière. C'est-à-dire, et j'ai eu une discussion à peine hier avec quelqu'un qui me disait, oui, mais les radicaux, je l'ai repris, mais attends, radicaux, parce que
vous êtes radical. Vous êtes radical. Moi, vous êtes un radical non violent.
Pour moi, justement, je lui disais, faut pas confondre violence et radicalité. Mm-hmm. Tout moyen de lutte, que ça soit la violence, la non-violence ou d'autres, ne sont radicaux que s'ils affaiblissent l'adversaire et s'ils renforcent le camp qu'ils servent. Or là, pour moi, les gens qui sont allés à l'affrontement contre les policiers dans ce dispositif énorme ont été des piqûres de mouches qui ont réussi à offrir au système, à Macron et au dispositif policier, les images d'affrontement qui ne leur faisaient absolument aucun mal, par contre qui permettaient de justifier l'incroyable occupation policière qu'ils ont fait subir à la population de la Côte Basque.
Voilà qui
et donc,
doit faire
en
plaisir.
Ce sens, ce n'était pas radical. Ça renforçait l'ennemi et ça affaiblissait le camp qui portait les alternatives au G7. Ouais. Et moi, je pense que c'était les actions non-violentes qui étaient les plus déstabilisatrices, comme
même
cette histoire
de la marche
des portraits.
Même si vous n'avez pas pu les accomplir comme vous vouliez pour l'ensemble de ces manifestations, en l'occurrence, puisque vous avez été empêché de développer certaines de ces manifestations.
Non, en tout cas, ici, on est tout ce que, dont on était partie prenante, à savoir le contre-sommet, la manifestation de samedi matin et la marche des portraits, on les a fait. On n'était pas partie prenante d'autres actions. Et nous, la marche des portraits, c'est-à-dire ces portraits de Macron qui ont été réquisitionnés, décrochés
dans les mairies,
dans des mairies de tout l'Hexagone, on a réussi à les faire ressortir. Et on a manifesté avec eux, Macron tête à l'envers, à 900 personnes dans le centre ancien de Bayonne, c'est-à-dire une zone où toute manifestation était interdite. On a réussi à faire rentrer, dès le samedi, 200 militants cachés dans les appartements au cas où le quartier serait encerclé par la police. Et donc, avec un soutien populaire de la population qui a hébergé ces militants et les portraits, Et on a réussi à défiler avec des portraits qui sont recherchés par toutes les forces de police et de gendarmerie de France et de Navarre et qui sont à l'origine de 17 procès d'une centaine de gardes à vue et de perquisitions dans l'endroit le plus sécurisé de l'Hexagone en ce moment. Manuel, donc j'appelle ça une grosse réussite avec 300 reportages télé, articles dans la presse du monde entier, en Asie, en Afrique.
Parce que évidemment, il faut médiatiser tout cela, évidemment, c'est ça le principe.
Bien sûr, puisque le but même, c'était de dire au monde entier, Macron qui se prétend le champion de la Terre, en fait, dans son propre pays, les militants climat décrochent son portrait pour montrer que sa politique a complètement décroché des objectifs de la COP21.
Parce que BC, il faut le rappeler, c'est un mouvement non violent qui travaille sur les questions d'urgence climatique. Manuel Cervera-Marzal, vous êtes théoricien, sociologue, donc universitaire, philosophe à l'université d'Aix-Marseille, et vous avez travaillé sur cette désobéissance civile qui est au cœur de ce qu'on vient d'entendre de la part à la fois de Tchatche Echeverry et d'Éric Sauteudé à Hong Kong, cette désobéissance civile qui se veut radicale, mais radicale dans sa non-violence, et c'est là-dessus que vous insistez dans vos propres travaux. On peut être radical et non-violent, et ça fait même partie de ce rôle politique que vous pensez que les militants non-violents peuvent jouer dans une société comme la nôtre.
Oui, tout à fait. On peut être radical et non-violent. Tchatche Echeverry l'a très bien dit. Et je voulais revenir sur l'origine de cette idée de non-violence parce que ça permet aussi de comprendre sa portée politique et subversive. C'est une idée qui a été forgée, tout le monde le sait, par Gandhi. Cette idée, elle vient à Gandhi par un échange épistolaire qu'il a eu, ça c'est moins connu, avec Léon Tolstoï en 1908. Et c'est Tolstoï qui dit à Gandhi ce que vous êtes en train de faire là, les actions de boycott des produits britanniques, les actions de désobéissance civile. Vous devriez aller lire la Bible parce que dans le serment de la montagne, donc si on vous frappe sur une joue, tendez l'autre joue, vous allez trouver vraiment les fondements philosophiques et éthiques de cette doctrine. Donc Gandhi se tourne vers le christianisme, il va faire un bricolage aussi avec des préceptes plutôt issus du jaïnisme et du bouddhisme, et il développe cette idée, cette philosophie non-violente. Mais ce qui est intéressant, c'est que Gandhi va faire passer la non-violence du statut d'un commandement éthique et religieux à une stratégie politique. Pour lui, ça va devenir une stratégie politique, au sens où la non-violence, on l'a choisie pour résister à la colonisation, non pas parce qu'elle est plus morale que la résistance armée, mais tout simplement parce qu'elle est plus efficace.
À l'instant même, c'est ce que disait tout à l'heure Tchatche Echeverry.
Voilà, et c'est ce que disait Tchatche Echeverry, et c'est ce que Gandhi constate pour deux raisons principales. Il dit parce que le premier élément qui fait la force d'un mouvement de contestation, c'est le nombre. Or, quand vous êtes violent, vous êtes peu nombreux parce que les personnes âgées, les plus jeunes, les sans-papiers, tous ceux qui sont vulnérables ne peuvent pas venir. Alors que quand c'est non-violent, vous pouvez massifier le mouvement. Et le deuxième élément que pointe Gandhi, qui est extrêmement important, c'est qu'il dit « la violence détourne l'attention de l'opinion publique, de la cause que vous défendez pour mettre l'attention sur les moyens. Très concrètement, s'il y a une vitrine brisée, on va parler uniquement de la casse de cette vitrine plutôt que de la casse du service public, de dizaines de lits d'hôpitaux qui sont fermés. » Donc il insiste vraiment sur l'efficacité de la non-violence. Et il y a eu un livre dont je voudrais dire quelques mots parce qu'il a fait beaucoup avancer la recherche sur cette question de l'efficacité de la non-violence versus la violence. C'est un livre qui est paru en 2011. Aux presses universitaires de Columbia, qui a été rédigé par deux chercheuses américaines, Erika Chenoweth et Maria Stéphane, et elles ont fait un travail d'ampleur. Elles ont comparé entre 1900 et 2006 312 mouvements de contestation d'ampleur contre des dictateurs, des invasions étrangères, des violations des droits humains. Et elles ont montré, ça c'est le grand résultat de leur étude, que les mouvements non violents étaient deux fois plus souvent victorieux que les mouvements violents.
C'est d'ailleurs la théorie qui a été adoptée aussi par quelqu'un comme José Bové, qui cite ces travaux-là à l'image de ce qu'il compte faire ou de ce qu'il voulait faire quand il était en politique.
Voilà. Et en même temps, la grande critique qui est faite à ce livre, et que j'endosse en partie, c'est que les auteurs, les autrices en l'occurrence, ont tendance à figer comme ça, à séparer d'un côté ce qui serait purement non-violent et de l'autre côté ce qui serait purement violent. Or, quand on regarde concrètement les mouvements de contestation en question, bien souvent, on se rend compte que c'est plus hybride que ça, qu'il y a à la fois le recours à parfois, effectivement, des actions très non-violente, de manifestations, de désobéissance civile, mais en parallèle, il peut y avoir des actions de saccage, voire des prises à partie physiques des personnes, voire même l'intervention de l'armée. Et donc, en fait, la question, c'est moins de savoir si le mouvement est violent ou non violent que de savoir si, dans ces différentes composantes, il y a toujours des composantes violentes ou non violentes, si ces composantes arrivent à s'entendre entre elles, à trouver un modus vivendi qui leur permette d'avancer de concert. Elles ont des différences de tactique, mais elles avancent ensemble. Et ce qui est intéressant de noter, et je finirai là-dessus, c'est que il y a eu deux mouvements sociaux qui ont été victorieux depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est le mouvement des Gilets jaunes qui a réussi à obtenir qu'il lâche 10 milliards à peu près, voilà, et Notre-Dame-des-Landes, puisque le projet d'aéroport a été retiré. Or, ces deux cas sont des cas de mouvements hybrides, avec d'un côté non-violence, on construit des cabanes, on fait de la permaculture, et de l'autre côté, une certaine forme de violence avec des barricades et des affrontements. Et donc voilà, on voit
y compris d'ailleurs José Bové avec le démontage entre guillemets du McDonald's de Millau, effectivement, de exercer au moins une violence contre les biens, puisqu'évidemment on peut aussi distinguer violence contre les biens et violence contre les personnes. Je vous propose d'écouter tous une interview de 1977. C'était à Antenne 2. Il répondait à Jean-Pierre Elkabbach, Lanza del Vasto, le fondateur du mouvement des communautés de l'Arche, qui était un élève, pourrait-on dire, de Gandhi en France, et qui, lorsqu'on parle de non-violence, eh bien, on réfléchit à ce qu'il a fait, en particulier sur le Larzac dans ces années 70.
Personne n'est non-violent par nature, et Dieu sait si je ne l'étais point. Personne n'est charitable par nature. Et on peut être plus ou moins doux, plus ou moins bienveillant, plus ou moins... Bon, ça n'est pas la non-violence, hein. La non-violence, c'est la conversion de la colère. Et d'abord, il faut avoir quelque chose à convertir, bien entendu, hein. La non-violence du lapin et du mouton ne valent rien, comme dit Andy, hein. Il faut avoir un tempérament de guerrier pour entrer dans la non-violence avec quelque efficace.
Mais vous êtes combien, dans votre communauté?
On est 150, bon. On est 150 et quelques milliers d'autres de par le monde qui nous suivent.
C'est bien une question de tactique, puisque dans la même interview, Lanza del Vasto, répondant à Jean-Pierre Elkabbach, dit bien évidemment, malheureusement, il y a des violents qui sont à côté de nous, mais ils nous permettent aussi d'une certaine façon de réussir certaines de nos actions, alors que nous nous voulons radicalement non-violents, Manuel Servera-Marzal.
Oui, effectivement, tout à l'heure on a évoqué ça rapidement, on est quand même dans une société de l'image, du spectacle, hein, les chaînes d'information aujourd'hui en continu ont multiplié leur audience par 4 lors du mouvement des Gilets jaunes, parce qu'elles montraient en permanence des incendies et des vitrines brisées. Et aujourd'hui, moi j'ai senti, alors peut-être que Tchétché Chéveri me contredira, je sais pas, c'est une question que je lui pose aussi. J'ai senti dans les mouvements non violents un petit bouger vis-à-vis de la violence, une plus grande ouverture, on va dire, vis-à-vis des stratégies violentes, au sens où on voit bien dans une certaine mesure qu'aujourd'hui, quand on veut faire la une des médias, puisque c'est ça quand même l'enjeu, c'est de faire parler de soi, eh bien, des actions violentes, ou en tout cas des saccages symboliques de banques, de concessionnaires automobiles, de grands pollueurs, des choses comme ça, ça permet de capter l'attention. Donc, c'est toujours cette question-là qui est importante, hein, pour les non-violents, qui s'ils font des actions spectaculaires, dramatiques, extrêmement théâtralisées, comme, je sais pas, grimper sur une ambassade, envahir un terrain de foot, déployer une banderole lors d'une assemblée générale d'une entreprise du CAC 40, c'est toujours cette idée de, voilà, de capter l'attention médiatique pour toucher l'opinion publique qui, elle-même, in fine, fera pression sur les gouvernants, puisque les gouvernants ont les yeux rivés sur leur cote de popularité. Et aujourd'hui, on voit que c'est plutôt la violence qui permet de faire parler d'une cause.
Tchétché Chéveri, sur cette alliance, pourrait-on dire, cette hybridation qu'évoquait à l'instant même Manuel Servera-Marzal entre stratégie violente et stratégie non violente pour faire aboutir sa cause?
Oui, en fait, je suis complètement en désaccord avec l'analyse qu'a développée Manuel. D'abord, d'après moi, il y a plusieurs erreurs dans son raisonnement. D'abord, penser que le fait qu'on a des images qui tournent en boucle en BFM TV est preuve qu'on est en train de gagner, ça me laisse dubitatif. En fait, justement, je me dis, si la violence était vraiment dangereuse pour le système, pourquoi un média tellement pro-système comme BFM TV l'a fait.
C'est pas ce qu'on a dit sur BFM TV pendant toute la période des Gilets jaunes. On a dit d'abord qu'il était pour les Gilets jaunes et puis ensuite qu'il était contre.
Mais j'y reviens. D'abord, ça d'une part. Après, pouvoir qualifier le démontage du McDo d'action violente, C'est, pour moi, c'est absolument erroné. Le démontage du McDo, c'est une action purement non-violente. C'est pas parce qu'on démonte, on casse des murs, des poutres, etc. À partir du moment où on le fait à visage découvert, en assumant les conséquences dans une ambiance populaire, familiale, etc., pour moi, évidemment que c'est une action non-violente. Moi, j'ai jamais dit que l'action non-violente ne devait pas dégrader le matériel. À partir du moment où c'est une décision collectivement assumée et qu'elle se fait à visage découvert, pour moi, même la dégradation de matériel est une action non-violente. Sur les gilets jaunes, est-ce Manuel part sur le principe qu'ils ont gagné? Mais moi, je suis pas du tout sûr de ça. Ils demandaient pas du tout 10 milliards de choses qui étaient déjà programmées et qu'on a donné un an plus tôt que ce qu'on allait les donner. Les gilets jaunes, ils demandaient bien autre chose. Et pour moi, je pense que les gilets jaunes ont commencé à perdre justement à partir du moment où les manifestations violentes se sont multipliées.
Donc vous êtes vraiment sur cette question de l'efficacité. Vous pensez que l'efficace, c'est la non-violence, parce qu'au bout du compte...
Non, je vais expliquer parce qu'il a été dit beaucoup de choses, donc j'essaye d'y répondre. Dans quel sens? C'est que pour moi, les Gilets jaunes, en novembre et en décembre, étaient un mouvement de masse avec tout le monde, et là, il menaçait vraiment le pouvoir et le gouvernement. À partir du moment, effectivement, et c'est pas uniquement l'impact de la violence, mais elle a joué un rôle, c'est devenu un mouvement qui n'était plus aussi massif, qui était...
Mais c'est à cause de la répression, c'est pas à cause de la casse?
Non, pas du tout. La répression, je suis désolé, mais en province, il y a eu assez peu de répression, par exemple, en tout cas chez nous, où c'était un mouvement massif, mais effectivement, les images de Paris, de Bordeaux, etc., ont fait que même dans les endroits où il n'y avait pas de répression, la participation a commencé à décroître sérieusement. Et après, on peut dire que Notre-Dame-des-Landes, c'est la victoire de la complémentarité des tactiques violence-non-violence. Mais moi, j'ai plein d'autres contre-exemples. En Pays Basque, en à peine 15 ans, par des moyens 100% non-violents, sans aucun recours à la violence, on a fait annuler un projet de 2x2 voies, une voie nouvelle LGV. On a gagné contre la tentative de l'État sous Sarkozy d'interdire la chambre d'agriculture alternative. Et on a fait annuler un projet de mine d'or. C'est des luttes où il n'y a eu aucun recours à la violence. Est-ce que le fait qu'il y a eu de la violence dans Notre-Dame-des-Landes a été le fait qui montre que la violence est la stratégie gagnante? Moi, je connais, je pense que, et je suis pas psychorigide sur ça, qu'il peut y avoir des épisodes de violence, etc., qui font qu'effectivement, on arrive à avoir des victoires sectorielles, tactiques, etc. Mais la question, c'est la stratégie. Et moi, je suis dans un mouvement sur le climat à long terme où il faut faire basculer une majorité dans des logiques de boycott du système et des mécanismes qui dérèglent le climat. Je m'explique par le dernier exemple, c'est que la lutte armée de TA en Pays Basque a gagné des victoires tactiques. Elle a réussi à faire fermer une centrale nucléaire de Lemonis. Mais elle s'est terminée par une impasse stratégique, à tel point que l'organisation elle-même a décidé de privilégier des stratégies non armées, non violentes, parce que elle voyait que par la stratégie armée, elle n'arrivait pas à ses objectifs stratégiques. Donc, effectivement, moi, je suis radicalement en désaccord avec la complémentarité des tactiques violence et non violence, parce que, et pour conclure, quand Manuel dit tiens, la violence aide l'ensemble de la lutte, mais on peut aussi prouver par 10 000 exemples que le recours à la violence va, au contraire, affaiblir et faire marginaliser l'ensemble de la lutte, y compris quand elle est majoritaire. Romans composés d'actions non violentes.
Éric Sautenay, vous êtes avec nous depuis le début de cette émission et on vous a donné la parole au tout début à propos de la situation à Hong Kong. Est-ce que ces débats que vous suivez évidemment sur place à Hong Kong, vous êtes analyste politique basé justement dans cette ville, mais vous vous occupez de tout ce qui se passe dans cette région d'Asie du Sud-Est. Eh bien, est-ce que ces débats sont riches justement entre ceux qui pensent des stratégies alternatives, violence, non violence, pour pouvoir faire aboutir les revendications de ceux qui voudraient que cette loi d'extradition, qui date maintenant de presque 5 ou 6 mois, soit abandonnée par le pouvoir de Hong Kong et qui se séparerait ainsi de sa tutelle pékinoise et de sa tutelle chinoise.
Oui, alors bon, tout à fait. Non, il y a des choses qui résonnent parce que les questionnements, il y a eu des sondages qui ont été faits par d'ailleurs certains de mes amis universitaires, douzaines de sondages qui ont été faits depuis le début du mois de juin jusqu'à début du mois d'août et qui montrent que justement, il y a un soutien général de tous les manifestants à la multiplicité, à l'hybridation comme ça des stratégies. Donc, il ne s'agit pas de prôner la violence, mais il s'agit de prôner une confrontation plus directe avec des possibilités parce que la confrontation, forcément, il peut naître quelque chose de beaucoup plus explosif à chaque fois qu'il y a une confrontation, mais il y a une sorte de complémentarité des deux. Et on est à un soutien de cette complémentarité qui varie entre 70 et 89% sur ces 12 sondages. Donc c'est très très clair de ce côté-là. L'autre chose que je voulais dire, c'est la question du nombre, parce que dans l'étude qui a été mentionnée tout à l'heure, ouais. Je crois qu'une des conclusions, au-delà du fait que les manifestations pacifiques ont deux fois plus de chances, ou les révolutions pacifiques ont deux fois plus de chances d'aboutir que la révolution violente, ce qui se passe, c'est que une des statistiques qui était donnée aussi, c'était qu'il fallait au moins 3% de la population soit mobilisée. Mmh. À Hong Kong, on est à peu près à 25% de la population qui est mobilisée. Le problème, c'est
et depuis longtemps,
n'est pas du côté de Hong Kong.
Et depuis longtemps maintenant.
Depuis longtemps maintenant, et avec une sorte de surdité absolue du gouvernement qui ne veut absolument pas répondre aux 5 demandes qui sont très très claires depuis le début. Bon, il y en a une qui a un petit peu évolué, mais il y a 5 demandes qui sont exprimées systématiquement depuis le début du mois de juin, et le gouvernement ne répond à aucune de ces demandes. Il y répond simplement en envoyant des forces de police.
Il faut les rappeler, le retrait définitif du projet de loi sur l'extradition, l'ouverture d'une enquête indépendante sur les violences présumées, le rejet du terme émeute pour qualifier des rassemblements, l'abandon des charges contre ceux qui ont été arrêtés, et enfin la reprise de la réforme politique. Ce sont les 5 demandes des manifestants à Hong Kong, Eric Sautedet.
Tout à fait. Alors l'autre chose que je voulais ajouter, c'est le fait que quand même le nombre n'est pas du compté, même si on a 25%. Bon, il y a certaines personnes qui disent 30% si on compte les plus de 15 ans, mais en fait, il y a quand même un jeune manifestant de 12 ans qui s'est fait arrêter ce week-end. Donc, je crois qu'on peut dire 25%, c'est déjà énorme de la population qui est mobilisée. Mais malheureusement, Hong Kong, c'est 7 millions d'habitants, et en face, la Chine, c'est 1 milliard 400 millions.
Oui, et tout de même, ce qui est intéressant et ce qui est très riche aussi dans ces mouvements non violents tels qu'ils se développent, Manuel Cervera-Marzal, c'est l'imagination. C'est-à-dire, on a parlé de cette balade des portraits, on peut parler de l'invention, il y a un peu plus de 6 mois maintenant, d'Extinction Rebellion en Angleterre, de son développement, donc là aussi pour des questions de justice climatique, de ces mouvements qui se répandent à partir de cette association. On en parlait tout à l'heure au journal, c'était à Bruxelles face à l'ambassade du Brésil, c'était aujourd'hui même. Ça oui. prend comme, disons, comme un feu de paille très rapidement, pourrait-on dire, un peu partout en Europe, et avec cette idée qu'il faut cette non-violence active dont parlait à l'instant même Tchétché Echeverri.
Oui, il y a une dimension extrêmement créative et imaginative dans ces mouvements non-violents. Pourquoi ? Parce que la résistance non-violente, ça ne se limite jamais à de la contestation, c'est aussi de la proposition. Il y a cette idée extrêmement forte chez Gandhi qu'il faut coupler des actions de désobéissance civile, donc en fait on conteste l'ordre existant, il faut les coupler à des actions, il appelle ça de programmes constructifs, et donc là il s'agit de mettre en place des institutions forcément embryonnaires de la société qu'on veut voir advenir, donc par exemple de la pédagogie alternative, une justice alternative, des modes de décision évidemment alternatives, réellement démocratiques, des modes de vie aussi réellement écologiques. Donc voilà, il y a toujours cette recherche vraiment de semer les germes de ce que pourrait être la société de demain, et ça demande une grande imagination, de puiser effectivement dans des traditions qui sont toujours des traditions vaincues, minoritaires, oubliées, mais voilà, qui permettent de développer d'autres modes de vie.
Oui, Tchétché Echeverri, on parle souvent de répertoire d'action dès qu'il s'agit de parler de manifestation, de façon de se manifester civiquement dans la société. Ces répertoires d'action, on a l'impression que ça donne lieu à beaucoup d'imagination. On se souvient du vol de chaises il y a quelques années dans les banques qui finançaient les industries fossiles et tout ce qui tourne autour de ce vol de chaises pour pouvoir se faire inculper. Et on sent, par exemple, chez Extinction Rebellion, la volonté de se faire inculper pour pouvoir ensuite se servir du tribunal, comme l'ont fait d'ailleurs des militants non-violents noirs américains dans les années 60, se servir du tribunal pour pouvoir faire porter sa parole, Tchétché Echeverri.
Oui, en fait, c'était des actions de chaise contre, enfin, des actions de réquisition de chaises dans les banques qui organisaient et permettaient l'évasion fiscale des ultra-riches. Donc on avait commencé par une action justement à Bayonne dans la banque HSBC, et puis ça a continué notamment au niveau de la BNP, etc. Mais on n'a jamais cherché à avoir des procès. On en a eu. Et souvent, d'ailleurs, l'adversaire hésite à nous mettre en procès parce que la cause est tellement légitime qu'il sent bien que ça va donner encore plus de poids et de d'écho à ce qu'on dénonce. Et d'ailleurs, pendant des mois et des mois, la BNP n'a pas osé et HSBC n'a jamais fait nous mettre en procès. Pourquoi ? Alors qu'on venait dans les banques et on piquait, on volait en fait des chaises et fauteuils qui avaient une valeur pécuniaire. Mais parce qu'évidemment, ils avaient peur, ils se sentaient coupables et ils avaient peur que de la tribune que nous donnerait un procès. Et on a finalement eu des procès, notamment celui de John Palais, mais il y en a eu deux autres, et qui ont été des moments de mobilisation énormes et des tribunes énormes, et qui ont fini en plus par des relax ou des condamnations symboliques. Donc évidemment, la BNP avait tout à perdre à nous mettre en procès. Moi, je voudrais juste...
Brièvement, parce que nous arrivons bientôt au terme de l'émission.
D'accord. En fait, si on prend le mouvement de Luther King, le mouvement de Luther King, il s'est passé... il était non-violent, et à côté, il y avait de la violence. Il y avait des mouvements noirs américains qui pratiquaient la violence.
Bah, Malcolm X, par exemple, et tous ceux qui,
voilà,
qui étaient...
Mais la question fondamentale, et c'est ça le débat, c'est qu'il n'y avait pas de complémentarité des tactiques. Le mouvement animé par Luther King et compagnie, il était 100% non-violent. Et c'est pour ça que ça lui donnait cette légitimité, cette force. C'est-à-dire que si ces militants, si la police essayait de criminaliser ces militants, etc., ça marchait pas parce qu'il savait que c'était un mouvement 100% non-violent. Et il gardait surtout le contrôle du mouvement. Parce que moi, le problème que je vois avec la complémentarité des tactiques, c'est que... on sait jamais qui c'est qui décide que à telle manif de masse, eh ben, ça va partir en vrille. Et du coup, on maîtrise absolument pas notre agenda. Il n'y a pas d'assemblée générale où il y a des gens qui proposent au vote d'aller partir à la baston.
C'est vraiment la stratégie que vous mettez en avant.
Voilà, et ça c'est un vrai problème. Moi, je veux contrôler les luttes et les mouvements dans lesquels je participe, et donc effectivement, je n'entends pas laisser des gens décider sous leur cagoule. Je ne sais pas qui c'est d'introduire tel élément stratégique que je n'ai pas choisi. Et c'est ça le fond du problème. C'est en fait finalement un problème démocratique.
Tchetch, juste très très brièvement, parce que aujourd'hui
le pas vos prénoms, vous connaissez très bien, vous n'êtes pas d'accord, mais
non,
vous c'est
on s'est, on s'est jamais rencontré. Aujourd'hui, très brièvement, aujourd'hui le récit dominant oppose le gentil Martin Luther King au méchant Malcolm X. En réalité, ils se sont jamais rencontrés, mais il y a eu des échanges de lettres, il y a eu des échanges de lettres entre eux, et ils manifestaient une grande admiration et un grand respect l'un envers l'autre, et ils étaient beaucoup plus proches que ce qu'on veut faire aujourd'hui. Il faut pas, je pense, opposer autant que tu le fais violence et non violence. Gandhi lui-même disait qu'il préférait une résistance violente à de la passivité qui est une forme de complicité.
Tu mélanges deux choses. Moi, il y a plein de militants d'État que j'estime totalement, mais ça veut pas dire que je vais coordonner ma tactique avec eux.
Merci à vous, Tchatchatcheveri. Merci à France Bleu Pays Basque qui vous a accueilli dans ses studios à Bayonne après ce long week-end de G7 et de contre G7 dont vous nous avez parlé. Merci à vous, Manuel Cervera-Marzal. Je rappelle que vous êtes auteur chez Michalon de Gandhi, politique de la non-violence et des nouveaux désobéissants. C'est au bord de l'eau. C'était en 2016. Et merci à Eric Sautedé qui est analyste politique basé à Hong Kong et dans toute cette région d'Asie du Sud-Est qui était avec nous pour évoquer justement la non-violence dans ce mouvement du côté de Hong Kong. Le temps du débat, première émission, c'est terminé. Un grand merci à la toute nouvelle équipe de cette émission, Le temps du débat, Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier, Louise André à la technique aujourd'hui, Clément Dattel à la vidéo, Valentin Bobinet, Morgane Danan et à la réalisation, Marie-Laure Ciboulet à l'ordre du jour demain. Qui peut se lancer dans une nouvelle course aux armements? Ça sera le temps du débat de ce mardi.